Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le gouvernement se donne 2 ans pour supprimer le régime des indépendants. Il leur promet également un coup de pouce. Guillaume Gavan a suivi Édouard Philippe qui présentait sa réforme à Dijon. Emmanuel Macron appelle les propriétaires à baisser les loyers de 5 euros par mois. La meilleure solution, selon lui, à la baisse des aides personnalisées au logement. Le président s'exprimait devant les préfets réunis à l'Élysée. Analyse de Ludovic Piétenu. Importante victoire de l'armée syrienne à Deir-ez-Zor dans l'est du pays. Elle a libéré une enclave gouvernementale assiégée depuis 2 ans par le groupe État islamique. Aux États-Unis, le programme de protection des jeunes majeurs clandestins va être supprimé. Il avait été mis en place par Barack Obama en 2012. Nous reviendrons sur cette annonce qui risque de faire grand bruit avec notre correspondant Grégory Phillips. Les indépendants vont donc changer de statut. Le gouvernement a décidé d'abandonner le RSI, régime très décrié. Il promet aussi un coup de pouce de 200 millions d'euros à travers des baisses de cotisations. Le Premier ministre a présenté ses réformes à l'occasion d'un déplacement à Dijon et vous l'avez suivi, Guillaume Gavan.
Face à un parterre d'indépendants et d'artisans, le Premier ministre jouait plutôt sur du velours.
Vous êtes 2,8 millions de commerçants, d'artisans, d'exploitants agricoles et de professionnels libéraux à avoir choisi l'indépendance. Et d'une certaine façon, avoir choisi la liberté. Et c'est probablement parce que vous avez fait le choix de cette liberté que les Français vous aiment, vous admirent, vous plébiscitent parfois, et parfois aussi sans doute vous envient.
Après les flatteries, les annonces proprement dites, d'abord en faveur du pouvoir d'achat, c'est le leitmotiv du gouvernement. En contrepartie d'une hausse de la CSG, les salariés, eux, vont bénéficier d'une baisse de leurs cotisations chômage et maladie. Pour les indépendants, ce sera les cotisations famille et maladie qui seront revues à la baisse. Jusqu'à 43 000 euros de revenus, assure le gouvernement, ils seront gagnants. Et Édouard Philippe s'est fait encore plus concret.
En clair, pour un indépendant qui gagne un SMIC, le gain sera de 270 euros par an. Et de 550 euros pour un indépendant qui gagne 2400 euros net par mois. Nous allons redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent.
L'autre annonce très attendue, c'est la fin du RSI, le régime social des indépendants. Critiqué de toutes parts, victime de trop nombreux dysfonctionnements, ses jours étaient comptés, surtout depuis qu'Emmanuel Macron en avait fait un engagement de campagne. Alors, à compter du 1er janvier prochain, les indépendants rejoindront bien le régime général, maladie, prévoyance, retraite. La transition est prévue pour durer 2 ans.
Pour compenser la baisse des APL, les aides personnalisées au logement décidées par le gouvernement, Emmanuel Macron a la solution. Il suffit que les propriétaires baissent les loyers de 5 euros par mois. Pour le président, c'est cela, la responsabilité collective. Si l'on est tenté de retenir surtout cette déclaration compte tenu du débat qu'a occasionné cet été l'annonce de la baisse des APL, ça n'est en fait qu'une petite phrase extraite d'un long discours d'Emmanuel Macron au préfet. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Aurélie.
Ce matin, le chef de l'État a poursuivi son travail d'explication au risque de déplaire.
Oui, Emmanuel Macron le reconnaît une nouvelle fois, il l'avait déjà fait, et son Premier ministre aussi, cette baisse des APL n'était pas la décision la plus structurante ni la plus structurelle prise cet été. Mais il s'est dit ce midi, surpris du silence collectif de ne pas appeler les bailleurs à baisser les loyers.
C'est ça la responsabilité collective. C'est ça ce qu'il faut faire à partir du 1er octobre. L'État n'a pas à payer tout.
Au vu des réactions déjà abondantes, l'explication n'a semble-t-il pas vraiment convaincu. Certains à gauche, au PCF par exemple, la qualifient d'incantation. Mais là encore, Emmanuel Macron rappelle qu'il faut regarder la cohérence globale avec prochainement un projet de loi qui doit entraîner ce qu'il appelle un choc d'offres dans la politique du logement et donc, à terme, une baisse des loyers. Autre source d'inquiétude ces temps-ci, la suppression d'une centaine de milliers de contrats aidés. Sur ce point, Emmanuel Macron demande aux préfets de veiller aux situations les plus délicates et d'éviter ce qu'il a qualifié de sortie sèche, autrement dit continuer à accompagner les personnes dont les contrats arriveraient à échéance.
Et c'est au préfet qu'il revient, Ludovic, de veiller au grain.
Oui, comment vous dire, Aurélie, que le discours de ce midi était un peu le discours d'un général fixant la feuille de route devant ses soldats ou plutôt d'un PDG devant les cadres de son entreprise. Emmanuel Macron a d'ailleurs totalement utilisé, repris à son compte cette sémantique. Entrepreneur, dit-il, c'est un mot français et ça n'appartient pas qu'au seul monde de l'entreprise. Vous êtes donc les entrepreneurs de l'État. Vous aurez un rôle managérial. L'innovation, la liberté, l'audace, dit-il encore, ne sont pas réservés au monde de l'entreprise ou aux start-up. Et le chef faisant passer enfin cette consigne, je serai toujours derrière un fonctionnaire qui a pris payer sa part de risque plutôt que derrière un fonctionnaire qui ne fait rien. Soldat rompé et au travail, le PDG exige du résultat.
Ludovic Piétenu, Mjib El-Gherab démissionne de La République En Marche. L'élu de la 9e circonscription des Français de l'étranger conserve pour le moment son fauteuil de député. Mjib El-Gherab avait été mis en examen samedi pour violence volontaire avec armes. La semaine dernière, il avait blessé à coup de casque Boris Faure, premier secrétaire de la Fédération socialiste des Français de l'étranger, toujours hospitalisé. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Mjib El-Gherab a devancé en fait la décision du conseil d'administration du parti qui s'apprêtait à engager une procédure d'exclusion à son égard.
Oui, il n'avait pas le choix Mjib El-Gherab puisque sa convocation ce matin était une audition préalable en vue de son exclusion. D'ailleurs, dans un communiqué, on nous précise que pour être adhérent à En Marche, il faut être attaché aux valeurs d'exemplarité et de respect d'autrui. Et sur ce plan-là, le député est loin d'être irréprochable puisque l'agression qu'il a commise devant témoin sur le socialiste Boris Faure mercredi dernier a été extrêmement violente. Il l'a frappé à deux reprises avec le casque de son scooter et ce sont des personnes qui se trouvaient juste à côté qui l'ont empêché de continuer. Les coups ont, semble-t-il, été donnés sans retenue puisque la victime Boris Faure a dû être opérée pour traumatisme crânien et le médecin lui a prescrit d'emblée 30 jours d'interruption temporaire de travail. Ça, en justice, en termes de sanctions encourues, ça peut éventuellement aller jusqu'à plusieurs années de prison. Maintenant, évidemment, les enquêteurs vont examiner en détail ce qui s'est passé pour essayer de savoir comment il en est arrivé là, car il semble qu'il y ait entre les deux hommes un contentieux politique extrêmement fort depuis plusieurs mois. Tous les deux étaient membres de la Fédération socialiste des Français de l'étranger, mais Mjib El-Gherab s'en est écarté pour se présenter aux législatives en juin dernier sous les couleurs de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Face à lui, il y avait un candidat socialiste, Didier Lebret, un proche de François Hollande, ancien coordinateur national du renseignement et par ailleurs époux de Mazarine Pinjot, la fille de François Mitterrand. Boris Faure, lui, était son directeur de campagne et il n'a pas supporté l'élection de Mjib El-Gherab à la place de son candidat, ce qui a donné lieu à des échanges, notamment par mail, particulièrement virulents au cours des derniers mois. Voilà pour le contexte. Alors évidemment, ça n'excuse pas les coups portés. Ça peut néanmoins en partie les expliquer. La justice va donc désormais maintenant poursuivre son enquête, ce qui n'oblige en rien Mjib El-Gherab à démissionner de son mandat. Il va donc continuer à siéger parmi les députés non inscrits.
Stéphane Robert, une mère de famille jugée pour financement du terrorisme avec son fils cadet et un ami. Nathalie Haddadi comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir envoyé des billets d'avion et des mandats à son fils aîné, parti et mort en Syrie. Au total, ces envois équivalent à 5 500 euros. Les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison et Nathalie Haddadi vit ce procès comme un acharnement.
Vous ne pouvez jamais faire le deuil. Vous ne savez pas dans quelles circonstances. Vous ne pouvez pas aller vous recueillir sur sa tombe. Je vivrai, ça, c'est de la survie pour moi, c'est de la survie.
Et en plus on vous juge.
Et on me juge aujourd'hui, on me juge.
Est-ce que vous êtes rendu compte qu'il s'était radicalisé, qu'il avait changé?
Je l'ai signalé, bien entendu. En sortant de la détention, je l'ai signalé une première fois. On m'a juste dit, écoutez, débrouillez-vous, Madame Haddadi, débrouillez-vous. J'ai essayé de le sauver en l'envoyant chez son père, ça allait très bien, il avait des projets, il avait... Sauf que... Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe un manuel? Comment on peut faire? On n'est pas aidé. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un message à transmettre. Nous, parents des enfants djihadistes, on est victimes. On est victimes, on souffre. On ne fera jamais le deuil. On pleurera nos enfants jusqu'à la fin de nos jours. Et le pire, c'est qu'on ne saura pas comment, les circonstances, pourquoi. Au jour d'aujourd'hui, je donnerai ma vie pour pouvoir le prendre 2 minutes dans mes bras. Et on me reproche de l'avoir envoyé là-bas. Pour moi, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Je suis une maman. J'aime mon enfant. J'aime mes enfants.
Nathalie Haddadi au micro de Florence Thurm qui suit actuellement pour nous ce procès. Les victimes n'y croyaient plus, il y aura bien un procès du médiator, c'est une information France Inter. Les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris les laboratoires Servier et l'agence du médicament dans le volet principal du scandale du médiator, Sarah Guibaudot.
D'anciens responsables des laboratoires Servier et l'entreprise elle-même devront répondre de tromperies, d'escroqueries au détriment de la sécurité sociale et surtout d'homicides involontaires par violation délibérée des obligations de sécurité et de prudence. Mais l'ordonnance des juges d'instruction insiste sur la responsabilité des pouvoirs publics. L'Agence nationale de sécurité du médicament est poursuivie pour homicide involontaire par négligence. Elle a tardé à suspendre l'autorisation de mise sur le marché du médiator. Elle ne l'a fait qu'en 2009. 1989, alors que les dangers du produit étaient connus selon la justice depuis 1995. De son côté, l'ancienne sénatrice UMP Marie-Thérèse Hermange est renvoyée en correctionnel pour complicité de trafic d'influence pour un rapport sénatorial rédigé en 2011 sous l'influence de Servier. Plus de 4000 parties civiles attendent ce procès que les recours de la défense retardent depuis plus de 3 ans. Entre-temps, 3 prévenus sont morts, dont Jacques Servier.
En cette semaine de rentrée, près d'un tiers des écoles primaires repassent à la journée de 4 jours, à la semaine de 4 jours, pardon. La réforme des rythmes scolaires initiée en 2013 par le gouvernement de François Hollande est donc partiellement détricotée. Et pour les écoles concernées, c'est le 3e changement de rythme en 9 ans. Or, ces changements ont un impact sur le temps de travail des mères de famille. Selon une étude publiée par l'Institut des politiques publiques, avant la réforme, 40% des femmes ayant un enfant en maternelle ou en primaire ne travaillaient pas le mercredi. Et ces 3 dernières années, 15% d'entre elles avait repris à temps complet. Pour Clémentine Van Effenter, chercheuse à l'École d'économie de Paris, ce retour à la semaine de 4 jours est un véritable recul pour les mères des jeunes écoliers.
La première chose qu'on a observée, c'est qu'en France, il y a plus de 40% des femmes dont le plus jeune enfant est en âge d'aller à l'école qui, avant 2013, ne travaillaient pas le mercredi. Et c'est quelque chose qu'on observe uniquement en France et pas du tout dans les autres pays d'Europe. De manière générale, cette réforme, c'est une petite révolution des temps sociaux. Donc, de toute façon, on revient sur une institution qui existait depuis 40 ans. L'absence d'école le mercredi, c'est normal qu'à court terme, il puisse y avoir des ajustements différents selon les types de ménages. Ce qu'on a pu observer, nous, c'est que les femmes qui ne travaillaient pas le mercredi étaient surreprésentées dans des professions où les inégalités de salaire sont importantes. Donc probablement pour ces femmes, il y a eu un intérêt à régulariser leur présence sur le lieu de travail qui pourrait potentiellement se matérialiser par un rattrapage en termes de salaire à long terme. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer aujourd'hui puisque la réforme a été mise en place il y a trop peu de temps et qu'aujourd'hui, avec le retour prévu à la rentrée 2017, on ne pourra probablement pas observer s'il y a des effets à plus long terme sur les salaires. Finalement, quel va être l'impact de ce retour à la semaine de 4 jours? Nous, ce qu'on pense, c'est que, a priori, si des femmes ont réagi en augmentant leur participation au marché du travail le mercredi avec la réforme de 2013, c'est qu'il y avait un intérêt pour elles à le faire et que donc, en un sens, le retour à la semaine de 4 jours n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour ces femmes.
La chercheuse Clémentine Van Effenter répondait à Pauline Weiss. C'était un programme emblématique de la présidence Obama. Son successeur a décidé d'y mettre fin. Les jeunes Dreamers, comme ils avaient été surnommés, près de 800 000 jeunes entrés illégalement avec leurs parents sur le territoire américain, ne profiteront plus du dispositif qui leur permettait d'étudier et de travailler. Depuis plusieurs jours, le débat était vif aux États-Unis autour de cette question. Et l'attorney général Jeff Sessions vient de faire connaître la décision du président Trump. À Washington, Grégory Phillips.
Donald Trump a tranché, mais c'est son ministre de la Justice qui l'annonce. Ça tient en quelques mots. Le programme DACA, mis en place par l'administration Obama, est annulé. À compter d'aujourd'hui, plus aucune nouvelle demande ne sera examinée. Les 800 000 Dreamers qui bénéficient de ce permis provisoire ne seront pas affectés avant 6 mois, le temps pour le Congrès américain de trouver une solution. Les mots de Jeff Sessions à l'égard de la précédente administration sont particulièrement rudes. Obama a mis en place ce programme DACA au mépris de toutes les lois sur l'immigration. Ce décret est anticonstitutionnel. Les facilités accordées à ces jeunes immigrés illégaux, explique le ministre de la Justice, leur ont permis d'occuper des emplois qui auraient dû revenir à des Américains. L'administration Trump annule donc l'un des dispositifs les plus symboliques de l'ère Obama, malgré la mobilisation d'une grande partie du monde des affaires. Les patrons de Facebook, General Motors et Apple s'étaient mobilisés, malgré aussi les appels à la générosité de plusieurs responsables républicains, dont le patron de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Côté démocrate, le gouverneur de New York a déjà fait savoir qu'il contesterait en justice l'annulation de ce programme.
Ouverture d'une enquête pour corruption sur l'attribution des JO de 2016 à Rio. La police brésilienne l'a annoncé ce matin. Elle enquête sur un possible achat de voix au sein du Comité international olympique. À une semaine de la désignation de Paris et Los Angeles pour l'organisation des Jeux de 2024 et 2028, c'est un nouveau coup de tonnerre, Fabrice Rigobert.
Des perquisitions ont été menées ce matin dans le quartier de Leblon à Rio, au domicile de Carlos Nuzman, président du comité olympique brésilien, qui était à la tête de l'organisation des Jeux de Rio il y a un peu plus d'un an, révèle la télévision Globo. Des policiers brésiliens, américains, français recherchent des preuves sur l'achat de voix dans le cadre de la désignation de la ville haute des Jeux de 2016 qui s'était déroulée à Copenhague en 2009. Des documents transmis par le fisc américain à la justice française et publiés dans Le Monde en mars dernier indiquent que trois jours avant le vote, le fils du très influent Lamine Diack, ancien patron de l'athlétisme mondial et membre du CIO, avait reçu 1,5 million de dollars. Une petite partie de cette somme avait ensuite été versée à une structure reliée à l'ancien champion d'athlétisme namibien Franky Frederiks, contraint de démissionner cette année de son poste de président de la commission d'évaluation des Jeux de 2024. Ce volet fait suite aux investigations qui avaient débuté en France après le signalement de l'Agence mondiale antidopage sur des faits de corruption commis par des membres de la Fédération internationale d'athlétisme en août 2015 pour dissimuler les cas de dopage d'athlètes russes.
Trois ans après sa fulgurante montée en puissance, le groupe État islamique subit une importante défaite dans l'est de la Syrie. L'armée syrienne est parvenue à briser le siège de Deir ez-Zor qui durait depuis plus de deux ans. Bonsoir Eric Begala.
Bonsoir Aurélie.
Deux enclaves gouvernementales étaient assiégées depuis 2015 par les djihadistes.
Oui, c'est une vraie victoire pour le régime. Ses forces ont réussi à enfin percer l'encerclement de l'une des deux poches dans lesquelles ses unités étaient assiégées. La brigade Al-Nimr était parvenue hier soir à moins de 2000 mètres de la base militaire dite Brigade 137, l'une de ces deux poches dans les faubourgs de Deir ez-Zor. Ce matin, une attaque, semble-t-il, conjointe des assaillants et des assiégés a réussi à faire la jonction, dégageant non seulement les quelques centaines d'hommes pro-régime qui étaient là depuis trois ans, depuis presque trois ans, mais aussi les quartiers urbains adjacents, à peu près la moitié de la ville, que les djihadistes de l'État islamique assiégeaient également. En tout, il devait y résider encore plusieurs dizaines de milliers de civils, également coincés là depuis plus de 30 mois. Pour autant, les forces du régime de Bachar al-Assad n'ont pas encore repris la totalité de la capitale régionale, mais ils ont réussi à percer le siège et selon les images diffusées par le commandement syrien et l'armée russe cet après-midi, l'armée russe dont l'aviation appuyait les Syriens, des dizaines de véhicules et de blindés poussaient ces dernières heures dans l'ancienne poche de la brigade 137 et prenaient position dans les quartiers urbains. Il leur faudra également dégager la seconde poche qui était assiégée, celle de l'aéroport à l'est de la ville, aéroport autour duquel la bataille avait repris cet après-midi. Si les forces pro-régime parvenaient effectivement à reconquérir la totalité de la ville, ce serait quasiment un coup mortel pour l'État islamique qui ne contrôlerait plus alors qu'une série de villages et de gros bourgs le long de l'Euphrate sur 120 km jusqu'à la frontière irakienne et autant de l'autre côté de la frontière. C'est en gros tout ce qui resterait du territoire du califat de l'État islamique.
Eric Biegala, opération policière ce matin dans les West Midlands, dans le centre de l'Angleterre. Quatre personnes soupçonnées de préparer des actes terroristes ont été arrêtées. Ces quatre hommes appartiendraient à un groupe néo-nazi interdit et plusieurs d'entre eux sont des militaires. Les précisions d'Antoine Gignot à Londres.
Ils ont entre 22 et 32 ans et ils font, selon la police, partie du groupe National Action, une sorte de milice paramilitaire néo-nazie interdite et dissoute l'an dernier après un énième dérapage antisémite. Ses membres avaient à l'époque rendu hommage au meurtrier de Jo Cox, la députée travailliste assassinée en pleine rue par un activiste d'extrême droite. Le mouvement, fondé en 2013, est surtout connu pour ses coups d'éclat médiatiques, la tentative de meurtre d'un jeune sikh, les propos racistes récurrents et les distributions d'aliments au sans-abri britannique dans une opération baptisée le Sauvetage Blanc. L'un des fondateurs expliquait en 2014 « Mein Kampf a changé ma vie, je n'ai pas honte de dire que j'adore Hitler ». Les hommes arrêtés aujourd'hui vivent dans différentes villes du Royaume-Uni, Birmingham, Powys, Ipswich et Northampton. Et cette résurgence des mouvements néo-nazis dans plusieurs régions est prise très au sérieux. Les responsables des associations de déradicalisation expliquent qu'il y a désormais dans certains centres plus de jeunes endoctrinés par les mouvements d'extrême droite que d'islamistes radicaux. À l'échelle du pays, ils représentent un quart des jeunes pris en charge.
Un tribunal israélien a tranché. Le franco-palestinien Salah Hamouri reste en prison. De père palestinien et de mère française, le jeune homme a été arrêté il y a deux semaines. Il avait déjà passé 7 ans derrière les barreaux. Il en était sorti en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers. Plusieurs élus français dénoncent une arrestation arbitraire et demandent sa remise en liberté. Les autorités françaises, elles, disent suivre le dossier de près. Marie Semelin a suivi pour nous l'audience à Jérusalem.
Quand les avocats sortent de l'audience tenue à huis clos, le père de Salah Hamouri a du mal à cacher son émotion en apprenant que son fils reste en prison. Arrêté il y a 2 semaines chez lui à Jérusalem, Salah Hamouri serait suspecté d'appartenir à une organisation terroriste illégale, mais aucune charge ne pèse officiellement contre lui. Aujourd'hui, le tribunal devait se prononcer sur la suite à donner à cette arrestation. Il l'a condamné ce matin à finir les 3 mois de peine qui lui restaient à purger quand il a été libéré dans un échange de prisonniers en 2011 contre le soldat franco-israélien Gilad Shalit. Salah Hamouri a déjà passé 7 ans en prison, accusé d'avoir planifié l'assassinat d'un rabbin. Lui a toujours clamé son innocence et l'une de ses avocates, Sahar Frances, dénonce un acharnement.
Salah est très connu comme militant pour les droits de l'homme, pour la défense des droits des prisonniers palestiniens. Et ce militantisme dérange Israël. Sa femme a aussi été interdite de territoire. Combien de temps Salah va-t-il tenir sous une telle pression ? Au bout du compte, il va probablement dire d'accord, je veux quitter ce pays et partir vivre en France. Et je pense que c'est ça l'objectif. Cette politique que nous appelons expulsion silencieuse, elle est courante contre les Palestiniens de Jérusalem.
Elle craint désormais que cette décision ne fasse que repousser une détention administrative pour le jeune homme, une spécificité israélienne qui permet de maintenir une incarcération sans inculpation ni procès.
Le ciel restera nuageux demain et parfois humide, mais des éclaircies se développeront l'après-midi. Il y aura du soleil et du vent près de la Méditerranée. Les températures maximales iront de 18 à 30 degrés.